Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Vous êtes à l'écoute du réseau Radio Campus France. Aujourd'hui, on retrouve l'émission Univox proposée par R2R Radio Campus Rouen.
Depuis quelques jours, étudiants, professeurs et personnel de l'Université de Rouen se mobilisent, comme c'est le cas dans beaucoup d'universités de France. Et pour ce qui concerne l'Université de Rouen, eh bien dans le viseur, c'est évidemment le budget 2014 qui a été soumis au vote du conseil d'administration de l'université. C'était le mardi 17 décembre dernier. Nous accueillons Simon Lahure, vice-président étudiant de l'Université de Rouen. Simon, bonjour.
Bonjour Daniel.
Alors, ce conseil d'administration, comment s'est-il passé? Je sais qu'on a parlé à un moment donné de plus de 200 étudiants qui se sont mobilisés avant ce conseil d'administration. Comment c'était?
Avant le conseil d'administration du 17 décembre, il y a donc eu 200 étudiants mobilisés pour protester contre les baisses de budget. Et avant le conseil d'administration qui a eu lieu le 26 novembre, il y avait plus de 400 étudiants mobilisés devant le conseil d'administration. Pourquoi autant d'étudiants se mobilisent? Tout simplement parce que les problèmes de budget, eh bien, c'est un petit peu le point commun avec tous les petits problèmes qui peuvent être rencontrés par les étudiants quotidiennement. Les problèmes de chauffage, de bâtiments non chauffés, les problèmes où il n'y a plus d'électricité dans le bâtiment Robespierre, les problèmes de suppression de cours, suppression d'options, suppression de filières, ou encore, on a l'exemple sur l'IUT notamment, les profs qui ne sont plus payés pour encadrer les stages ou les projets tutorés. Bref, tous les étudiants ont des problèmes particuliers dans leur filière qu'ils vivent tous les jours, et avec un vecteur commun, le budget. C'est pour ça qu'un syndicat, l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France, a organisé le 26 novembre des assemblées générales par filière pour pouvoir faire un état des lieux dans chacune des filières des problèmes de budget, ce qui a conduit à une mobilisation budgétaire d'ampleur pour dire que finalement, avoir du budget, c'est pouvoir résoudre tous les problèmes de la vie quotidienne.
Quel est l'argument qui est avancé par le conseil d'administration de l'université et par sa présidence pour justifier cette politique de restriction budgétaire et les conséquences qui en découlent?
L'argument, il est simple. C'est pas nous. C'est pas ma faute. Très simple comme argument, c'est pas moi, c'est le ministère. Sauf que depuis la LRU, la loi Liberté et Responsabilité des Universités, dont on a déjà beaucoup parlé, eh bien les universités sont autonomes et donc elles font leur propre choix budgétaire. Sauf que elles ont quand même une mission de service public et donc elles doivent faire des choix budgétaires avec l'argent que leur donne l'État. Et on a exactement le même problème que ce soit pour les collectivités locales, mairie, conseil général, conseil régional, c'est-à-dire que l'État donne des compétences aux différents interlocuteurs et ne leur donne pas les moyens budgétaires d'appliquer leurs compétences. On a le même problème à l'université. Et arrivé là, du coup, on a une obligation de fournir une formation de qualité et en même temps, pas le budget pour pouvoir l'appliquer. Ce qui fait que chaque université doit finalement trouver l'endroit où ils vont faire des coupes de budget. Pour l'Université de Rouen, pour que nos auditeurs de partout en France puissent bien comprendre où est le problème, c'est que pendant 3 ans, on a pioché entre 3 et 7 millions d'euros dans un fonds de réserve qu'on avait accumulé avec le temps pour pouvoir maintenir une formation équivalente. Sauf que là, on est arrivé à un seuil critique où il nous reste plus d'argent dans ce fonds de roulement, le bas de l'année vide, comme on dirait, et il faut couper. Il faut couper dans les budgets parce que sinon les profs ne seront pas payés. On a vu la situation à Versailles-Saint-Quentin. L'université de Versailles-Saint-Quentin est arrivée en cessation de paiement au mois de novembre. On n'a pas envie que ça arrive à Rouen, donc il faut couper. Et la réaction de la présidence de l'université, c'est de dire « faut couper sur les endroits où ça va se voir le moins ». On va aller stigmatiser les méchants profs qui font des heures complémentaires pour avoir un salaire encore plus élevé, et du coup on va couper dans les heures complémentaires. On va aller stigmatiser les UFR de sciences humaines qui ont un taux d'encadrement exceptionnel, et du coup on va couper de l'argent. La réalité, c'est que s'il y a des heures complémentaires qui sont effectuées, c'est parce qu'il y a des enseignements qui doivent être faits, et qu'il n'y a pas assez de profs, donc les profs font des heures sup, Et si y a un taux d'encadrement qui est supérieur en lettres, c'est parce que pour les filières de sciences humaines, il y a 17 filières. Donc évidemment que ça prend plus de profs que d'aller assurer 3 filières en droit, économie, gestion. Et on ne peut pas faire des amphis à 600 quand on a des filières différentes. Donc c'est ce manque de connexion avec les réalités locales qui aboutit à finalement arriver sur un calcul de chiffres et puis sur un calcul humain.
Alors Simon, concrètement, si ce budget 2014 tel qu'il a été présenté, entre autres mardi dernier, si ce budget venait à être approuvé, quelles pourraient être les conséquences dès demain en matière d'application de ces orientations budgétaires ?
Tout d'abord, voter pour ce budget, c'est considérer qu'on peut faire fonctionner l'université de Rouen, normalement, avec l'argent qui nous est donné par l'État, sans un centime de plus. C'est donc un geste politique de soutien au gouvernement dans sa politique de restriction budgétaire. Ensuite, s'il est voté, c'est-à-dire qu'on appliquera ce budget. On est un service public, et donc si un budget est voté, on l'applique. L'appliquer de manière concrète, c'est-à-dire que, pour donner un calcul un peu plus précis, la décision de la présidence de l'université, c'est de dire on va réattribuer sur toutes les composantes universitaires de l'argent, exactement comme l'État donne de l'argent aux universités. C'est-à-dire qu'un étudiant en sciences humaines vaut un quart d'un étudiant à l'IUT dans la dotation de budget, parce qu'on considère qu'il y a besoin de moins l'encadrer. Si on l'applique de manière vraiment à la lettre, c'est-à-dire qu'on ferme toutes les filières qui ont moins de 200 étudiants sur les facultés de sciences humaines. Donc en gros, il resterait histoire et lettres étrangères appliquées. Ça fait pas beaucoup. Mon propre département, philosophie, serait supprimé. Mais c'est un détail, après tout.
C'est un détail, mais on sait hélas que pour beaucoup et pour quelques courants de pensée, ce sont justement ces cursus, ces sciences dites molles qui ne sont pas rentables et qui sont accusées un peu de peser sur le fonctionnement de l'université au détriment de sciences dures et beaucoup plus rentables.
Voilà, justement, c'est là toute la stratégie de la présidence de l'université, c'est de pouvoir opposer les sciences dures et les sciences molles, les sciences exactes et les sciences inexactes, pour dire justement « Oh, regardez, eux, ils ont beaucoup de budget, c'est des méchants », ou dire au contraire « Eh bien, vous voyez, vous êtes utile pour la société, vous avez une insertion professionnelle qui est magnifique, et tout va pour le mieux ». Or, en réalité, les problèmes, ils sont partout. Déjà, dans une filière, une composante de l'université qui a une insertion professionnelle absolument magnifique, l'IUT. Dans l'IUT aussi, on va aller piocher des budgets, en considérant que eux, c'est parce qu'ils ont le plus de budget qu'on peut leur en retirer. Et on va en retirer dans les sciences humaines en disant que eux, de toute façon, l'utilité sociale des sciences humaines, c'est quand même quelque chose de vachement annexe. Et du coup, on s'aperçoit que il y a un argumentaire différent, mais dans tous les cas, il s'agit de couper dans le budget. Et du coup, la question, c'est pas de savoir pourquoi on coupe dans le budget. La vraie question qu'on doit se poser en tant qu'étudiant, c'est est-ce qu'on a une alternative au fait de supprimer des budgets et d'affaiblir les formations. Et moi, je pense qu'il y a des alternatives, et sur cette base-là, les mobilisations étudiantes, elles ont prouvé leur efficacité. Il y a déjà les manques de l'État, l'argent que l'État devrait donner à l'université qu'elle ne donne pas. On a 3 pistes là-dessus. La première, c'est la différence entre le coût des salaires et l'argent qui est donné par l'État à l'université pour payer ses salaires. On l'évaluait pour l'année 2013 à 980 000 euros. Et 0 euros jusqu'au 25 novembre, et après la mobilisation du 26 novembre, 349 000 euros qui tombent. Bon, ça c'est un premier truc, mais vous voyez qu'il y a quand même un différentiel de 650 000 euros entre ce qui a été donné et le besoin. Mais c'est déjà 350 000 euros de récupérer. Après, le deuxième, c'est les frais d'inscription des boursiers. Un boursier ne paye pas de frais d'inscription à l'université. C'est quelque chose de normal, on considère que la situation sociale de l'étudiante n'est pas suffisamment favorable pour qu'il puisse payer des frais d'inscription. On pourrait se dire que ça devrait être à l'État de payer ses frais d'inscription pour que l'université ne soit pas, entre guillemets, mal financièrement. Sinon, le message, ce serait de dire plus l'université a de boursiers, donc plus elle a d'étudiants précaires, plus elle n'a pas de budget et elle ne peut pas réaliser ses formations. Donc là, encore une fois, on a obtenu une reconnaissance par le ministère qu'il y a un problème, et donc ce sera compensé à l'euro près en 4 ans. Bon, ça veut dire qu'on aura 51 000 euros maintenant sur les 200 000 euros qu'il nous faudrait. C'est bien pour l'État, ça lui permet de faire des annonces, comme quoi il donne de l'argent, mais pas d'avancer l'argent tout de suite et de la donner entièrement uniquement dans 4 ans. c'est bien, c'est de la communication pas trop chère à 25%, c'est bien, 75% de réduction sur la communication du ministère. Et le troisième truc, c'est les postes des profs, parce que là-dessus, le ministère reconnaît qu'il manque 50 postes à l'université de Rouen et a décidé d'en donner 7. Ça fait 221 000 euros, c'est une grande victoire. La mobilisation des étudiants a permis ça. Et on s'aperçoit par contre que si on en donne 7 alors qu'il en manque 50, il en manque toujours 43. Le bilan de ça, c'est quoi? C'est que la mobilisation des étudiants, ça permet de débloquer 620 000 euros. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est qu'il manquait quand même 3 millions d'euros et on n'a obtenu que 620 000 euros. Donc on a obtenu de l'argent, mais il en manque toujours. Et la solution, c'est d'aller chercher l'argent auprès du ministère. Le ministère, c'est le seul qui a les marges de budget pour aller financer les universités. Le ministère, il fait le choix de consacrer 5 milliards d'euros au crédit impôt recherche, c'est-à-dire en exonération d'impôts pour les entreprises, argent qui, objectivement, enfin 5 milliards, c'est énorme. Il manque 180 millions dans les universités pour les faire fonctionner correctement. Et de l'autre côté, on offre 5 milliards aux entreprises. Et du coup, c'est l'endroit où il y a des marges de négociation. Par contre, un ministère, eh bien, c'est les aléas du pouvoir, c'est soumis aux pressions, c'est soumis au lobbying, c'est soumis aussi aux rapports de force. C'est-à-dire que plus les étudiants sont mobilisés, plus il y a de l'argent qui est débloqué.
Allons voir puisqu'elle nous réclame, allons voir ce que demande la foule. Veut-elle qu'on lui rachète son âme, ou veut-elle qu'on la défoule? Allons voir puisqu'on nous appelle, puisqu'on nous montre du doigt. Allons voir qui tire les ficelles, est-ce bien ce que l'on croit? Est-ce les haillons ou la dentelle? Est-ce le roi de je ne sais quoi? Est-ce le ventre ou la cervelle? Est-ce la population d'en bas? Allons voir puisqu'on nous rappelle, allons voir puisqu'on y croit. L'enfer qui brûle le ciel, c'est arrivé quelquefois. Route, sans revenir sur nos pas, pendant que le dos se voûte, dans le torse le cœur se bat, et déjà ça fait scandale, et encore ça fait longtemps que l'on incarne le mal, ou le remède, ça dépend. Nous les anges qu'on envoie au diable, nous les démons qu'on attend, nous sommes indispensables, comme le doute au jugement. Qu'on nous appelle.
Est-ce que c'est pas aussi soumis un peu à Bruxelles? Alors je sais que c'est un peu presque populiste que de dire ça, mais le président de la République François Hollande et sa majorité ont accepté le fameux pacte de stabilité avec un retour à l'équilibre qui devrait se profiler et arriver même en 2017. Tu me disais il y a quelques instants, il manque 180 millions, c'est le chiffre que tu avances, pour faire fonctionner les universités dans de bonnes conditions, en tout cas de bien.
Il manque 180 millions d'euros pour les faire fonctionner comme elles fonctionnent à l'heure actuelle.
Comme elles fonctionnent à l'heure actuelle.
C'est-à-dire qu'il manque 180 millions d'euros pour éviter des dégradations d'études, pas pour faire réussir tous les étudiants, pas pour donner les moyens d'avoir des diplômes de qualité. Il manque 180 millions d'euros pour éviter que les universités se retrouvent en cessation de paiement ou en déficit.
Mais est-ce que la pression de Bruxelles se fait sentir?
Bien sûr. Par contre, face à la pression de Bruxelles, on a deux possibilités. Soit, et c'est la position du président de la République, on dit « c'est pas ma faute, c'est la faute de Bruxelles, donc si vous n'êtes pas content, allez râler auprès de Bruxelles, moi j'y peux rien, et auquel cas, bah, c'est notre cher président normal qui finalement en fait ne sert à rien et dit qu'il est un simple interlocuteur et que c'est pas sa faute à lui, c'est la faute de Bruxelles. Tout comme le président de l'université de Rouen dit « c'est pas ma faute à moi, c'est la faute de ministère ». Donc ça c'est la première attitude, ou alors il y a la deuxième attitude, qui est pour le coup une attitude politique et responsable, qui est de dire ben, « c'est pour l'ensemble des contribuables français que je fais de la politique et que j'ai envie d'affirmer des choses, que j'ai envie d'avoir une éducation de qualité, des hôpitaux qui marchent, finalement des services publics, et auquel cas, eh bien il faut dire la pression ». Mise dans la rue par la mobilisation des étudiants, et il n'y a pas que à Rouen, il y a à Montpellier des assemblées générales à plus de 2000 étudiants, il y a à Lyon 2 des assemblées générales à 500 étudiants, il y a à Grenoble 3 qui a rejeté son budget, il y a à Bordeaux 3 avec des assemblées générales à 300 étudiants. Eh bien, cette pression qui existe dans la rue et dans tous les domaines, je l'utilise avec moi et je vais l'accompagner pour aller créer un rapport de force contre Bruxelles. Et ça, ce serait à mon avis une attitude responsable. Et pour moi, la responsabilité, elle est la responsabilité de l'État. De manière juridique, l'État, c'est encore lui qui décide et qui a la possibilité de pouvoir inverser la pression. Et donc, voilà à mon avis les deux attitudes possibles pour le président de la République et l'ensemble du gouvernement.
Tu ne penses pas que justement le choix entre ces deux possibilités ne pourra intervenir que dans quelques mois, à l'issue des prochains rendez-vous électoraux qui pourraient amener l'exécutif à faire bouger les lignes dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que ça ne sera pas un peu tard?
Eh bien moi je pense que ce serait trop tard, le fait d'attendre quelques mois, d'attendre que les élections soient perdues pour le gouvernement en place, pour bouger les choses. Il y aurait, ça serait même complètement passéiste comme attitude. Par contre, le gouvernement pourrait aussi se dire, il y a des attentes populaires, je vais répondre à ces attentes populaires, ça lui permettrait éventuellement d'éviter d'avoir la pire courbe de popularité de la 5ème République, et dire, je réponds à ces attentes politiques, populaire, et je vais contre Bruxelles aller briser l'austérité et faire en sorte de relancer l'ensemble de l'activité. Après, moi je pense que dans quelques mois c'est trop tard, s'ils attendent d'avoir perdu les élections, en plus ils n'auront pas les leviers pour le faire, si au contraire ils se disent je le fais maintenant, eh bien on dépassera le stade des promesses électorales et on arrivera à un bilan électoral, ce qui est quand même à mon avis un petit peu plus porteur et ce qui peut redonner confiance aux citoyens dans la politique.
Alors Simon, face à ce discours et à la position que tu viens dénoncer, il y a aussi tout un courant de pensée qui milite de façon très, très convaincue pour le retour à l'équilibre budgétaire, à la diminution des dépenses publiques et par conséquent aussi à une prise en charge de chaque université, hein, pour en revenir au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, une position et un courant de pensée qui estime que la ligne actuellement défendue à travers la position que tu viens d'énoncer serait, elle, par conséquent, passéiste. Qu'est-ce que tu réponds quand on dit que, voilà, laisser courir, laisser filer les déficits, ça n'est plus tenable, c'est passéiste et ça ne correspond pas aux exigences et au contexte économique actuel?
Je leur répondrai très rapidement que je leur déconseillerais d'aller passer un bac économique et social parce qu'ils seraient recalés. De manière un peu plus sérieuse, c'est complètement l'attitude de notre ministre de l'enseignement supérieur, Geniev Fioraso, qui a accordé un rendez-vous aux Échos, un entretien commun avec le président du MEDEF pour expliquer qu'il fallait associer les entreprises à la gestion des universités. À mon avis, c'est complètement irresponsable parce que on ne peut pas relancer l'emploi. La vraie question qui est centrale, c'est la question de l'emploi. On ne peut pas relancer l'emploi si on n'a pas une formation de qualité, et on ne peut pas avoir des travailleurs, une force productive en France qui soit efficace si elle n'est pas soignée, nourrie et éduquée. Or, casser les services publics, c'est enrayer la force de production. La vraie question qu'il faut se poser, et du coup, là-dessus, je reporterai à la une de la Nouvelle Vie Ouvrière, le journal de la CGT qui vient de paraître, sur quel coût pour le capital et quel coût pour le travail. De manière très rapide, pour vous éviter de lire l'ensemble du dossier avant la fin de l'entretien, le coût du capital, c'est 238 milliards par an. Le coût du travail, donc les charges sociales, c'est 138 milliards par an. En fait, le vrai problème qu'on a en France, c'est que on a des actionnaires qui coûtent trop cher, on a toute une catégorie de gens qui veulent des entreprises rentables, qui veulent des marges bénéficiaires énormes, et pour qui, du coup, l'intérêt collectif n'existe pas. Face à ça, la vocation de la politique, la vocation de la citoyenneté, c'est de remettre l'intérêt collectif au cœur des préoccupations, et de se dire qu'il faut réorienter l'argent pour se dire que s'il y a des déficits, c'est parce qu'il y a 20 milliards d'exonérations de cotisations patronales qui existent, que s'il y a des déficits, c'est parce que tous les secteurs rentables de l'économie française, les secteurs publics rentables, eh bien on les a privatisés parce que justement c'était rentable. Vous voyez l'exemple de nos autoroutes en France et le prix que chacun paye en prenant l'autoroute, et du coup il y a une volonté manifeste de liquider le pouvoir public au lieu de le mettre au service de l'intérêt collectif. Et effectivement c'est le débat d'idées qui existe, et c'est le débat d'idées qui s'exprime dans la société à tous les niveaux, toutes les échelles, aussi bien dans les débats citoyens que dans les débats politiques, et il y a effectivement deux camps qui s'affrontent. Un qui veut l'intérêt du plus grand nombre et un qui cherche finalement qu'à soutenir les pouvoirs de l'argent.
Mais la LRU, la loi de réforme des universités, et les RCE, responsabilité et compétences élargies, c'était aussi la promesse, disait-on à l'époque, de campus moderne à l'américaine, à l'anglo-saxonne, et finalement on se rend compte que ça va de mal en pis. Alors que s'est-il passé ?
J'ai envie de dire, on l'avait bien prédit. Et ce qu'on avait prédit est arrivé. C'est-à-dire que l'État s'est désengagé financièrement. Personne n'est venu se réengager financièrement derrière, parce que, à part la puissance d'État, il n'y a rien qui existe et qui soit en capacité d'engager de telles sommes pour avoir finalement un bénéfice qui est social et qui n'est pas particulier. Je veux dire, quand on va financer l'université d'Aix-Marseille, 70 000 étudiants, eh bien, on est incapable de tracer ce que chaque étudiant va faire après et dans quelle entreprise il va aller travailler. Et finalement, seule la puissance publique peut le faire. Si la puissance publique ne le fait pas, eh bien, les universités rentrent dans la démesure, font n'importe quoi, et finalement, il ne se passe plus rien. Donc, on l'avait bien dit, évidemment que les campus vont s'effondrer, il y a besoin d'argent pour faire fonctionner un service public. Si on retire cet argent, il n'y a plus rien.
Mais finalement, Simon, admettons que nous vivions à l'instant même dans un monde parfait et que les questions budgétaires propres aux universités françaises soient résolues. Alors là, c'est vraiment un bel effort d'imagination. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas des réformes, hein, j'utilise le mot, des choses à faire pour moderniser l'université et lui permettre de fonctionner de façon encore plus efficace? Est-ce que le mot réforme, c'est un mot tabou dans le monde universitaire? Je te taquine, mais...
Frère, moi je pense que la réforme, c'est quelque chose de très bien. Le réformisme, c'est quelque chose de très bien. La réforme, ça annonce un progrès social, normalement. Effectivement, le mot a été dévoyé avec toutes les contre-réformes qu'on s'est pris, mais le vrai nom, c'est des contre-réformes. Une vraie réforme, c'est quelque chose qui va améliorer la vie des étudiants et la possibilité de leur formation. Une vraie réforme dans le monde en général, c'est quelque chose qui vise à améliorer progressivement la vie des citoyens. Et je pense que dans un monde parfait où on supprimerait le crédit impôt recherche et on réinvestirait ces 5 milliards dans l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de réformes à faire. Ces réformes, pour moi, elles sont avant tout sur le plan social. C'est-à-dire permettre à chaque jeune qui est en formation de ne pas être obligé de se salarier à côté de ses études pour pouvoir réussir. Ça, ce serait une vraie réforme qu'il faudrait faire et qui permettrait du coup qu'un étudiant, au lieu de consacrer 20 heures à sa formation et 20 heures à un salariat à côté, puisse consacrer 40 heures par semaine à sa formation. Ça, ce serait une vraie réforme. La deuxième vraie réforme, ce serait d'être en mesure de fournir un accompagnement plus individualisé des étudiants, ce qui ne veut pas dire le fait d'infantiliser un étudiant, mais ce qui veut dire tout simplement être à l'écoute de l'étudiant, pouvoir l'accompagner dans sa progression. Et c'est le cas typiquement des projets tutorés qui peuvent exister et qui sont hélas trop rares à l'université. Eh bien, en libérant du temps pour les étudiants et en libérant des moyens financiers pour pouvoir payer les professeurs, on pourrait avoir cette avance et du coup arriver à une formation de meilleure qualité. Mais une formation de meilleure qualité, c'est pas juste plus de compétences, c'est aussi une culture générale qui accompagne la formation, c'est la possibilité de s'émanciper intellectuellement parlant, c'est l'engagement associatif, c'est l'engagement syndical, c'est l'engagement politique pour chaque étudiant, c'est la possibilité de se dire que la vie, ce n'est pas quelque chose d'individuel qu'on réalise dans son coin, mais c'est un engagement collectif pour la société.
Mais là, on retrouve l'opposition classique et traditionnelle entre ceux qui estiment que l'université forme des hommes aussi, et de l'autre côté, celles et ceux pour qui l'université doit former avant tout des salariés, des professionnels et des travailleurs.
Je pense que ce n'est pas contradictoire, et effectivement, je pense que l'étudiant est un travailleur en formation. Et c'est en tant que travailleur que nous devons devenir des hommes, justement. Hommes avec un grand H. C'est en tant qu'étudiant, eh bien, effectivement, on ne doit pas oublier cette compétence professionnelle. Ce que je veux dire, c'est que toutes les filières à l'université sont professionnelles, je l'affirme, sans aucun doute. Aucune filière à l'université ne vous apprendra à devenir rentier ou actionnaire boursier. Voilà, vous pouvez chercher, ça n'existe pas. Or, tout le reste, eh bien, c'est professionnel parce qu'on exerce une profession, parce qu'on vit de sa force de travail, parce que quand on travaille, eh bien, on vend son temps de travail pour avoir un salaire et pouvoir nourrir sa famille, pouvoir avoir une maison et avoir des loisirs. Donc, dans tous les cas, pour moi, c'est pas déconnecté. Il y a un rapport complètement dialectique entre les deux, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on devient un travailleur, eh bien, on le devient un travailleur au service de la société et pour l'intérêt collectif.
Très rapidement, Simon, cette émission touche à sa fin. Allez, en une minute, les prochains rendez-vous, peut-être de mobilisation en tout cas, autour de cette question du budget 2014.
C'est très dur à affirmer parce que c'est une émission nationale et la question budgétaire est une question nationale, mais où chaque vote de conseil d'administration est local. Sur Rouen, en attendant, on attend de savoir comment ça va se dérouler. Maintenant, la clé est entre la main des administrateurs de l'université, c'est-à-dire que ce sont les 30 personnes qui sont élues au conseil d'administration de l'université qui vont décider de notre avenir à nous tous, les 25 000 étudiants et les 2500 personnels de l'université. Et j'ai envie de dire que le prochain rendez-vous sur les questions de budget, il a lieu en mars. Parce que fin mars ou début avril, il y aura des élections étudiantes et que ces élections étudiantes vont changer 5 des administrateurs de l'université. Et c'est l'occasion d'aller mettre des élus combatifs, syndicaux, des élus qui ont envie de défendre l'enseignement supérieur public. Et c'est une grande occasion, donc je dirais que le prochain grand rendez-vous est fin mars, début avril. Si d'autres choses se dessinent avant, si d'autres mobilisations doivent avoir lieu, gardez les yeux ouverts sur tous vos campus de France d'ailleurs. Des affiches vous informeront, participez aux assemblées générales, discutez, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, mettez du débat citoyen dans votre vie de tous les jours.
C'était Univox avec Simon Lahure, vice-président de l'Université de Rouen. Restez sur votre Radio Campus, restez sur le réseau Radio Campus France. À bientôt.
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.